deuxième temps de notre série sur l'histoire du sport dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le documentaire du mardi nous raconte un morceau d'histoire de l'escrime française, l'escrime aux Antilles. Après la lutte grecque antique, c'était hier dans la fabrique de l'histoire. Avant le football, ce sera demain. Le documentaire de ce matin, signé Franck Thoraval et Anne Fleury, part d'une question simple et complexe à la fois. Pourquoi un tel succès pour l'escrime antillaise aujourd'hui? La réponse est complexe car elle mêle l'histoire culturelle, l'histoire sociale, l'histoire politique et bien sûr l'histoire de l'esclavage. C'est ce que nous racontent dans ce documentaire donc de Franck Thoraval et Anne Fleury tous les témoins, Rudy Nedjus, Enzo Lefort, Jacques Castanet, Harry Méfon, Louis-Georges Tin, Claude Chop, Jacques Rey, Jean-Michel Lucenay et également Laura Flessel, double championne olympique à l'épée au JO d'Atlanta en 1996 et 6 fois championne du monde. C'est le documentaire de ce matin jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire.
D'accord, là, je passe par-dessus.
Coraline Vitalis. Il vient de la Guadeloupe, en fait. Donc, il a commencé là-bas, vraiment, champion du monde junior. Il y a Mélissa Goram.
Va attendre 5 minutes, allez, grappe le ballon.
Du code noir à l'or olympique. Une histoire de l'escrime aux Antilles. Franck Thoraval, Stéphanie Gillard et Anne Fleury.
Mélissa Goram, là-bas, qui a commencé là-bas, qui a vécu là-bas. Il y a aussi Maureen Nissima, qui a été championne du monde junior, médaillée aux Jeux, championne d'Europe, qui vient de la Martinique, en fait.
Le 8 novembre, Maureen Nissima touche enfin l'or sous l'éclat de la somptueuse verrière du Grand Palais et son cri de rage et de joie résonne longuement juste après sa touche victorieuse face à la Hongroise Emes Vaz, cette touche qui la sacre championne du monde.
Donc là, on parle de l'équipe que vous entraînez, l'équipe épée féminine, l'équipe de France, 11 jeunes femmes et... une jeune femme blonde,
oui.
Parmi d'autres beaucoup plus colorées, avec des origines antillaises et africaines.
Et africaines, oui, tout à fait. Le recrutement ici, donc à l'INSEP, hein, donc qui est vraiment le Graal au niveau du sport, des sports olympiques, et en particulier de l'escrime, se fait essentiellement sur les résultats. On prend les meilleurs, hein, donc voilà. Donc, il se trouve que les meilleurs sont un peu colorés, mais c'est pas du tout un critère de recrutement.
Les demoiselles d'Atlanta, on pourrait les appeler. 14-11, quelle que soit celle qui gagne, c'est beau pour l'épée française.
En 1996, au JO d'Atlanta, l'épée féminine fait son entrée dans les disciplines olympiques. Laura Flessel, escrimeuse guadeloupéenne qui a déjà brillé au championnat panaméricain, est sacrée championne en individuel et en équipe. La guêpe entre dans l'histoire du sport. Or, l'escrime n'est pas un sport comme les autres pour la France. Les règles y sont nées, la langue d'arbitrage est le français, et c'est l'escrime qui a rapporté le plus de médailles à notre pays. Suite à l'exploit de Laura Flessel, de nombreux escrimeurs guadeloupéens, martiniquais et guyanais vont briller sur le circuit international. Les frères Jeannet, Ulrich Robéry, Jean-Michel Lucenay, Sarah Daninthe, Maureen Nissima, Yannick Borel et tant d'autres. Les fédérations ultramarines qui représentent entre 1 et 2% des licenciés français seulement ont produit 30% des membres de l'équipe de France et remporté 50% des médailles.
15-12, c'est terminé, Laura Flessel, première championne olympique et sereine, elle n'explose pas. Hein.
Depuis 20 ans, de nombreux observateurs s'interrogent sur les raisons d'un tel succès dans ce sport descendant du duel d'honneur.
J'ai commencé à l'âge de 5 ans.
Enzo Lefort.
Je vivais en Guadeloupe et c'était devant les Jeux d'Atlanta en 96 où je vois Laura Flessel qui gagne. Suite à ça, j'ai pratiqué l'escrime jusqu'à mes 16 ans en Guadeloupe. Et depuis le 2010, j'ai participé aux derniers Jeux Olympiques à Londres. J'ai été champion du monde par équipe en 2014, double champion d'Europe par équipe en 2015 et 2014. Et j'ai également été troisième championnat du monde individuel en 2014.
C'est vrai que... l'explosion de l'escrime aux Antilles commence vraiment avec les exploits de Laura Flessel. Quand même, elle reste la pionnière à ce niveau, quoi. Double médaillée aux Jeux Olympiques, Je pense que ça s'était jamais vu.
Rudy Néjus.
Et encore plus aux Antilles. Elle est quand même à l'origine de pas mal de carrières de jeunes qui sont actuellement ici à l'INSEP.
Mais avant moi, il y a eu des escrimeurs. C'est Marlène Outerville, c'est Denis Mal, c'est Néjus.
Laura Flessel.
Ils ont été médaillés au monde, ils ont été champions de France par équipe, individuels aussi. Moi, j'ai profité, mais ce sont les premiers à avoir montré le chemin vers, on va dire, une escrime avec des rêves internationaux.
Vous commencez à 6 ans ?
Je commence à 5 ans et demi. À cette époque, il y avait de l'escrime en fait à l'OMCS de Petit-Bourg. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, en Guadeloupe, c'est une île très sportive. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Et comme il y avait de l'escrime, on démocratisait aussi l'escrime.
Voilà, toi, t'es en retard. Bien partir, là, rester devant. Pas ça et subir pour revenir extérieur.
Et vous, Rudy, vous êtes le premier entraîneur d'origine antillaise de l'équipe de France.
Ben oui, il paraît, c'est pas quelque chose... Oui, il paraît, il semblerait, oui. J'ai commencé l'escrime donc très jeune, en fait, donc quand j'étais en école primaire. Et à partir de là, je me suis retrouvé, comme l'a dit Laura, vraiment dans une famille. Je pense que l'escrime, à un moment donné, était devenu un prétexte. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de nous rencontrer. On avait un maître d'armes à l'époque, même si Laura, on n'était pas du même club, mais c'était le maître Guillaume qui était un peu notre maître à tous, quoi. Il savait exactement comment nous parler. Et je pense qu'il avait, lui, il avait vraiment un impact sur nous. Et puis, on avait un respect pour lui. Il y a quelque chose qu'il y a en Guadeloupe et aussi en Martinique, certainement, que je ne retrouve pas ici. C'était vraiment ce côté jeu. Je pense que nous, on est vraiment très chambreurs, en fait. On va chambrer sur tout et n'importe quoi. Mais un petit jeu qu'on va faire, on va faire un basket, on va trouver un défi qu'on relève. Et puis, je pense que, mine de rien, ça a forgé comme ça notre côté compétition. On mettait une intensité de dingue dans les entraînements, mais sans s'en rendre compte, en fait. Des fois, si on n'avait pas envie de s'entraîner, tac, on allait à la plage, c'était à 5-10 minutes. Même si on n'avait pas de voiture, on prenait le bus, on y était, on nageait. Les meilleurs pouvaient faire l'aller-retour, ils allaient à l'île du Bousier, je sais pas si... Mais c'est vrai qu'en y pensant, je me rends compte qu'on avait une préparation physique mais super élaborée.
On restait ensemble, on s'entraînait à point d'heure. Des fois, les parents, ils étaient obligés de... Normalement, ils restaient dans la voiture, ils nous engueulaient parce qu'on s'entraînait trop. On traînait pas dans les vestiaires, on était sur les bancs en train de parler. Et donc, du coup, ça crée en fait... Comme un code. On avait un code de valeur. Lorsqu'on courait, c'était pas celui qui courait le plus vite, c'est celui qui ramenait le plus de mangue. Parce qu'on courait dans la savane. Et au final de compte, on était athlétique sans s'en rendre compte. Si bien que lorsqu'on passait après, on rentrait dans la salle d'escrime, enfin on avait une arme dans les mains. Et enfin on faisait de l'escrime. Et comme on était peu nombreux, ben tout le monde tirait avec tout le monde. Donc tout le monde amenait sa petite expérience pour permettre à tout le monde de progresser. Et on chambrait. Et si jamais les filles gagnaient, c'était encore... Là, c'était magnifique. C'était pas tout le temps. Mais n'empêche que ça a généré, en fait, une famille, une foi.
Ouais. Hop. Oui, voilà. Même chose à la saignée.
L'histoire de l'escrime pendant des siècles, c'est des gens qui défendent leur honneur à l'épée.
Nous, on est arrivé dans une génération où tout était, on va dire, aseptisé. Le duel était devenu un jeu. Nous, ce qu'on recherchait, c'était se chambrer. Sauf que on chambrait, mais il n'y avait pas de mort derrière. Mais dans la manière de se moquer de l'autre, comme j'ai envie de dire, j'étais fascinée par la touche au pied, mais la touche au pied vient, en fait, chez moi, dans ma vision, c'était un jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on tirait en Guadeloupe avec les garçons, comme ils avaient des grands pieds, donc on arrivait à toucher, mais c'était l'insulte suprême. C'est-à-dire que je vais avoir le dernier mot, certes, mais je joue et j'essaye de créer plein de stratégies pour créer un univers à moi. Mais un univers où tout est bordé et tout est sécurisé. On ne joue pas sa vie, on joue son plaisir.
1, 2, 3. C'est pas normal que tu sois en déséquilibre sur le 1. Très bien.
À Savigny-sur-Orge, Jacques Castanet, ancien maître d'armes à la Sorbonne, propose la plus grande collection d'antiquités liées à l'escrime.
On rentre dans un magasin exclusivement consacré à l'escrime et à son histoire. Un magasin dans lequel il y a environ 5000 articles, 1000 bouquins, 1500 à 2000 photos, autant de journaux, des cartes postales, des tableaux, des armes, des masques.
Alors, on a les masques là, juste en face de nous. Quel est le plus vieux ?
Le plus vieux, le voici. Il est là. Il est de 1750. C'est le premier masque connu qui a été créé par un maître d'armes qui s'appelait La Boétière, qui, comme par hasard, a été celui qui a formé le chevalier Saint-Georges.
Il est très sommaire. Hein.
C'est juste la protection du visage.
Voilà, une tige qui tient le masque le crâne.
Une petite...
Et puis une sorte de filet en métal assez grossier.
Oui. Alors, deux dates importantes. D'une part, c'est 1547, le fameux duel de Jarnac. Ce sont deux jeunes nobles amis du roi. Ils ont voulu se battre. Et ça a été une histoire invraisemblable. Jarnac a pris des cours d'un maître d'armes italien parce qu'il se savait infiniment moins fort. Il était voué à une mort certaine. Et il a eu l'occasion d'apprendre un geste tout à fait particulier. C'est-à-dire que dès le commandement « Allez, messieurs », il s'est fendu à fond en prenant des risques absolument énormes. Et il a blessé son adversaire au genou. La châtaigneraie a été évidemment surpris parce qu'il était préparé à gagner. Il s'est relevé, Jarnac a fait la deuxième attaque et à ce moment-là, la châtaigneraie s'est effondrée. Jarnac est allé demander au roi, puisque ça se passait devant tout le monde bien sûr, il est allé demander au roi « rendez-moi mon honneur ». Et on a rendu son honneur à Jarnac qui a été nommé gouverneur de La Rochelle. Or ce truc-là a tellement impressionné l'opinion publique que le roi a décidé que ce serait le dernier duel judiciaire. Duel judiciaire, ça voulait dire que les hommes n'étaient pas capables de décider qui avait raison, et c'était la parole de Dieu qui, en aidant l'un des deux à être vainqueur, disait qui était fautif, était coupable et qui était menaçant.
1547, on passe du duel judiciaire au duel d'honneur.
Alors, ce duel a été une des particularités de l'escrime en France, qui a de tout temps étonné les étrangers qui n'avaient pas du tout les mêmes conceptions de la notion d'honneur. Et ce duel, jusqu'à la Révolution française, a été exclusivement réservé aux nobles, les seuls à avoir le droit d'avoir une arme pour se battre à chaque instant. Et dans la mesure où l'autorité royale s'est centralisée de plus en plus, au fur et à mesure, l'autorité locale ou régionale des nobles s'est trouvée diminuée. Ce qui fait que les nobles, de tout temps, avaient envie de se battre en duel parce que c'était une provocation vis-à-vis du roi. Donc, il y a eu, au XVIIe par exemple, 40 édits royaux contre le duel pendant le siècle. Tous les rois, et par la suite les républiques, ont essayé de le supprimer. Jusqu'à la Révolution, ça a été un duel quasiment à outrance, c'est-à-dire jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, alors que les bourgeois, politiques ou autres, qui se battaient en duel au 19e, ils se sont rendus compte que risquer leur vie, c'était quand même embêtant, donc ils se sont arrangés pour s'organiser, avec l'aide des deux médecins qui assistaient au duel, pour que la simple petite blessure, l'honneur soit sauf et qu'on arrête les frais. Donc, le duel a complètement changé de nature tout au long du 19e. Les duels ont continué à faire des morts, quelques dizaines par an, et tout ça jusqu'à la guerre de 14. Et c'est le maître Lacaze qui l'a découvert et qui, le premier, l'a écrit. La guerre de 14 a tué le duel.
Le Code noir, ou Édit du roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et la police des îles françaises de l'Amérique et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dit pays. Donné à Versailles au mois de mars 1685. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons sous peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les entrouvera saisies, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
L'esclavage a toujours existé, mais là, il y a un texte législatif qui l'organise par Colbert sous Louis XIV, et ça s'appelle le Code noir.
Louis-Georges Thin.
Il faut savoir que l'esclavage est une guerre raciale permanente. les frais d'entretien des armées sont considérables parce qu'il faut sans cesse mettre sur le dos des esclaves des soldats pour éviter les révoltes. Et donc, c'est une société militarisée constamment que la société de plantation dans les colonies.
Dans le Code Noir, il y a un article qui nous intéresse, c'est l'interdiction faite aux esclaves de porter les armes. Esclaves qui pourtant utilisent une arme toute la journée.
En effet, chaque esclave a son coutelas pour couper la canne. Chaque esclave peut s'en aller à tout moment. Il n'y a pas de barbelé, ça n'existe pas encore à cette époque. Et c'est une société de combat que la société esclavagiste. D'ailleurs, tous ces arts de danse et de combat, la capoeira, mais il y en a beaucoup d'autres en fait aux Antilles, qui portent des noms différents selon les endroits, témoignent de la volonté des esclaves de pratiquer le combat tout le temps. C'était interdit, bien sûr, mais ces pratiques existaient au Brésil, mais aux Antilles, le Belay ou en Martinique, par exemple, et à d'autres noms ailleurs. Ce sont des sports de combat qui sont sublimés, et dont nous voyons l'aspect esthétique aujourd'hui, mais qui ont une nécessité évidente à l'époque. Donc vraiment, l'art de la guerre est inhérent à l'esclavage. C'est même la première des techniques de résistance.
Les esclaves africains pratiquent tout ce qui était de leur culture, c'est-à-dire un ensemble de danses, de luttes relativement viriles, brutales, des luttes au bâton, le maillolet, rythmé au son du tambour, enfin vraiment interdit, mais qui se pratiquait de manière clandestine. Une forme d'escrime au bâton, une sorte d'art martial au bâton qui était assez violent puisque le bâton était fait pour porter des marques et aussi abattre. Ça faisait des ravages aussi chez les esclaves puisqu'il y avait des coups de bâton, des balafres, des handicaps liés à ces pratiques qui s'est perpétué au cours du temps puisque c'est une pratique africaine qu'on retrouve dans toute la Caraïbe qui prend plusieurs types de noms mais qui a redoublé d'intensité en Guadeloupe.
Le chevalier de Saint-Georges, né d'une esclave, acquit en 6 années une si grande habileté dans l'art de l'escrime qu'on l'appela l'inimitable. Doué d'une force de corps et d'une agilité prodigieuse, il eut dans cet art une supériorité devenue proverbiale et brilla également dans tous les autres exercices. Personne ne pouvait l'atteindre à la course. Dans la danse, il était le modèle de la perfection. Excellent écuyer, il montait à cru les chevaux les plus difficiles et les rendait dociles. Il patinait avec une grâce parfaite et se distinguait parmi les meilleurs nageurs de son temps. François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens, 1868.
C'était ce chevalier Saint-Georges. C'était un homme hors du commun qui, ayant vécu un jour aux Antilles, alors qu'il avait une dizaine d'années, il assiste au fouet que donne un responsable de la plantation à un gamin. Il intervient en tant que fils du grand blanc propriétaire, il intervient. Et il prend le fouet, c'est lui qui prend la correction au fouet, à la place du gamin, quand il voulait sauver l'existence, parce qu'il s'était permis d'intervenir. Il revient en pleurs auprès de sa mère, comme tout gamin qui se respecte, et sa mère lui dit quelque chose qui a conditionné tout le restant de son existence. N'oublie pas que tu es peut-être le fils d'un grand blanc, mais tu es surtout le fils d'une esclave. Et ça, garde-le pendant toute ta vie. Et effectivement, c'est cette consigne maternelle qui l'a impressionné et qui lui a permis toute sa vie de vivre dans des conditions particulières. Alors, le père de Saint-Georges s'est battu en duel. On pense qu'il a tué quelqu'un aussi et il a été obligé de se rapatrier en France pour des raisons qui n'ont pas été bien établies ou qui ne sont pas arrivées jusqu'à moi. Quand il est rentré en France, le gamin avait une dizaine d'années, il est rentré avec sa mère à Paris, où il avait de gros moyens, installé avec le meilleur maître d'armes, le meilleur écuyer, le meilleur directeur de musique, le meilleur compositeur. Il est même allé jouer du violon devant Marie-Antoinette, qui avait voulu en faire son chef de musique, mais toutes les nobles femmes de l'époque ont crié au scandale qu'un noir ose, un mulâtre ose les diriger. Donc, ça n'a malheureusement pas marché.
Ah, voici notre garçon. Ah, il a rudement mené ce pauvre Covin, qui est pourtant une fine lame.
Bonjour, mon père. Savez-vous ce que me rapporte Covin ?
Et quoi donc ?
Que le maître d'armes Picard de Rouen se moquerait de moi. Et assurerait que je ne suis pas aussi bon escrimeur que lui.
Oh ! Eh bien, mon fils, il te faut aller à Rouen répondre à ce Picard.
Et si tu lui fais rentrer sa hablerie dans la gorge en le battant à plat de couture, ce dont je ne doute point, je t'offrirai un cheval et un cabriolet.
Oh mon père, comme vous êtes généreux.
Avec cet équipage, tu commenceras ta vie de gendarme de la garde.
Gendarme de la garde?
Oui, je t'en ai obtenu le titre. Tu peux faire tes adieux à tes maîtres. Ton éducation est terminée.
À nous deux, maître Picard. À nous deux, yeah!
Et il a fait la connaissance d'un des frères du roi qui l'a emmené à Londres, où il est devenu à nouveau la coqueluche de tous les Londoniens. Ça a été l'occasion d'une rencontre célèbre dans la salle du maître Angelo, entre le chevalier Saint-Georges et la chevalière Déon.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on considère que le chevalier Saint-Georges est le meilleur escrimeur
de l'époque,
de son époque?
Bon, il a eu l'occasion plusieurs fois de se faire attaquer, parce qu'il était noir, dans les rues de Paris, des guet-apens. Et à chaque fois, il a mis en déroute les malfrats. Donc il s'est créé peu à peu une réputation d'escrimeur. Il n'y avait évidemment pas de rencontre officielle. Les championnats n'existaient évidemment pas.
Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus. Et que par conséquent, il y a deux fois du courage à se battre.
Donc la Révolution française commence. Elle s'exporte aux Antilles et les Blancs disent « Nous avons besoin, nous aussi, d'une certaine indépendance. Nous voulons une forme d'autonomie. » Puis bientôt, les mulâtres de la société disent « Nous aussi, nous avons des élans révolutionnaires et nous demandons l'égalité entre nous et les Blancs. » Et puis les Noirs disent « Ben nous, on demande la liberté. » Car liberté, égalité et à l'époque propriété, eh bien les Noirs disent eh bien nous aussi, nous avons des revendications et on va se battre. Et leur leader, en tout cas le plus visible, le plus efficace, c'est Toussaint Louverture, car il crée l'ouverture dans les lignes ennemies, d'où ce surnom qui lui est attribué. C'est Toussaint Louverture qui invente la guérilla. Et effectivement, les Français finissent par comprendre que s'ils veulent sauver la colonie, il faut abolir l'esclavage, d'autant qu'ils n'ont plus le choix. C'est par colonialisme que l'on devient abolitionniste. Donc, lorsque les députés de Saint-Domingue arrivent en 1794 à Paris, on abolit l'esclavage pour ne pas perdre la colonie. Et c'est ainsi que, dans un premier temps, on abolit l'esclavage. Mais vous l'avez rappelé, Napoléon n'est pas exactement sur cette ligne. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, eh bien, il rétablit l'esclavage. Et évidemment, à Saint-Domingue, on n'est pas tout à fait d'accord. On se bat. Et Saint-Domingue, le 1er janvier 1804, devient Haïti, première république noire de l'histoire, abolitionniste et indépendante. Et c'est la révolution haïtienne qui a changé la face du monde. Simplement, il est frappant de constater que tout le monde connaît Waterloo, mais personne ne connaît Vertières, la défaite de Napoléon en 1803, au cours de laquelle il a perdu Saint-Domingue. Et à peine les gens savent-ils en France que Haïti était une colonie française, parce que Napoléon a dit à ses ambassadeurs, je ne veux pas qu'on parle de Vertières, il ne faut pas qu'on sache que j'ai été défait par des nègres.
Napoléon a par ailleurs cherché à occulter aussi la figure du chevalier de Saint-Georges, c'est lui qui l'a effacé des mémoires collectives de manière volontaire. Et puis
le général Dumas, premier général noir des armées de France, il devient général sous la Révolution française, mais Napoléon le destitue, estimant qu'on ne peut pas avoir de noir dans l'armée française. Donc cette compétence, elle existait déjà à l'époque, simplement elle a toujours été occultée.
Vous avez ici un tableau. Le peintre s'est amusé à récupérer toutes les personnalités de l'escrime du 19e. Ça se passe dans les salons de ce qui est actuellement le ministère des Affaires étrangères, entre le préfet de police de Paris, qui, vous le voyez, un masque comme celui que je vous ai montré, en 1816.
Jacques Castanet.
Et en face de lui, un petit maître, 1m55, lyonnais. Et celui qui dirige ce combat, c'est Jean-Louis. Alors ce Jean-Louis était un Antillais, pas de famille, rien. Et comme beaucoup d'autres, on lui a donné un prénom en guise de nom de famille, Jean-Louis. Il a été amené en France dans une famille bourgeoise, protestante, pardon. Et il a, un peu par hasard, fait connaissance du maître d'armes de la garnison locale, qui a découvert chez lui des possibilités. C'était un petit être malingre, mince, sans aucune fioriture. Et par l'escrime, il a acquis une stature suffisamment importante pour qu'il devienne un maître d'armes connu. Tellement connu qu'il a fait partie des équipes de l'armée française Et les troupes françaises qui avaient occupé l'Italie pendant les campagnes d'Italie y avaient incorporé, enrôlé de force, des régiments italiens. Et ces régiments italiens incorporés dans l'armée française sont ensuite, en 1813, allés faire le siège de Madrid. Et les bagarres entre les soldats et les officiers français et italiens étaient telles que le général s'est dit « il faut faire cesser ce truc-là ». Et il a eu une idée pour le moins étonnante. Il a proposé, enfin imposé plus exactement, que le règlement soit fait par les maîtres d'armes. Bon, 15 maîtres d'armes français, 15 maîtres d'armes italiens. Le premier des maîtres d'armes français, c'est Jean-Louis, qui rencontre le premier italien, qui le tue. Il tue l'italien. 2 minutes de repos, si j'ose dire. Le deuxième italien arrive, il tue le deuxième italien. Il tue le troisième. Il tue le quatrième. Il blesse ou il tue le cinquième. Le sixième. Le septième. Le huitième. Le neuvième. Le dixième. Le onzième et le douzième. On dit que la réconciliation entre les Français et les Italiens a été complète à partir de ce jour-là. Mais ce maître d'armes, qui ensuite crée une salle à Montpellier, a pu continuer à enseigner avec une autorité. Il est devenu aveugle. Il a continué à donner la leçon rien que par le sentiment du faire, quand le contact de deux armes lui permettait de savoir ce que faisait son élève en face. Malheureusement, il n'a rien écrit. Il n'a rien écrit et il a fallu que le maître Vigeant retrouve les reprises de Jean-Louis. Ces reprises de Jean-Louis, c'est ce qu'il a enseigné toute son existence, mais ça a été la base de l'escrime française pendant de très nombreuses années, à l'époque où l'escrime française, après 2 siècles de retard sur les Italiens, qu'il avait créé avant nous, arrive à se mettre au niveau des Italiens.
Marcher, dégager. En garde, bombé, barricade.
Engagez l'épée de carte, en garde, battez bombé, et une de dedans. Je prends Sixte et contre de Sixte. Sur ma menace, le coup droit est dégagé en dessous. Garde. Formez prime et seconde. Tirez en second, relevez-vous en Sixte. Tirez droit, en garde.
En garde, marchez, dégagez.
Lorsque l'esclavage est aboli aux Antilles en 1848, les droits civiques sont gagnés, mais il y a une violence terrible qui est liée au défaut de réparation.
Louis-Georges Tin.
C'est-à-dire que les maîtres ont reçu des indemnités financières tellement importantes qu'ils étaient plus riches après l'abolition qu'avant. Et ne sachant quoi faire de leur argent, ils ont créé des banques, la banque de la Martinique, la banque de la Guyane, etc. Et les esclaves, eux-mêmes, sentaient bien qu'il y avait un petit problème dans cette situation. Donc, c'est une situation de tension, avec des grèves très nombreuses, très durement réprimées.
On peut imaginer qu'à partir de ce moment-là, les anciens esclaves se font un honneur de porter les armes. Après l'abolition, la deuxième abolition de l'esclavage.
On a dans chaque campagne, dans chaque case pratiquement, un fusil qui peut servir à toute occasion, soit contre le maître, soit contre le voisin, soit contre n'importe qui. Donc ce sont des sociétés qui restent extrêmement dures, extrêmement violentes, armées, surarmées, et presque plus après l'abolition de l'esclavage qu'avant, puisque les anciens esclaves désormais libres ont accès aux armes, ils ont le droit, et ils ne s'en privent pas. Donc c'est un investissement capital, c'est un signe de fierté et une nécessité sociale que de s'en procurer. Les esclaves ont toujours pensé que l'esclavage pouvait revenir. Et d'ailleurs, après l'abolition de l'esclavage, on a essayé, y compris aux Antilles, de réinstituer l'esclavage. C'est-à-dire que les lois de 1848 disent aux esclaves, vous allez revenir sur les plantations, vous allez travailler gratuitement pour les maîtres, sans être payés donc. Alors les esclaves disent, mais c'est un peu étonnant, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au système que nous avons combattu. On leur dit, oui, c'est vrai. Alors ils se battent pour empêcher que l'esclavage aboli ne soit réintroduit. Donc pendant 2 ans, il y a une situation de confusion, et finalement on abolit le travail forcé aux Antilles, qu'on essayait d'instituer, et on se dit on va le faire directement en Afrique. Après tout, il y a là beaucoup de terres, beaucoup de personnes, et le rapport de force militaire nous est favorable.
En 1843, 2 ans avant les mousquetaires, Alexandre Dumas publie un roman, Georges, qui passera plus ou moins inaperçu. Son personnage principal, Georges Munier, est un riche mulâtre de l'Île-de-France.
Maintenant, monsieur, à nous deux, s'il vous plaît. Voilà la seconde fois, rappelez-vous le bien, que vous levez à 14 ans de distance la main sur moi. La première fois avec un sabre. Georges releva ses cheveux avec la main et montra du doigt la cicatrice qui sillonnait son front. « Eh bien, dit Henri, eh bien, je vous demande raison pour ces 2 insultes. Vous êtes brave, je le sais. et j'espère que vous répondrez en homme à l'appel que je fais à votre courage. Je suis aise, monsieur, que vous connaissiez ma bravoure, quoique votre opinion là-dessus me soit indifférente. Elle me met à mon aise dans la réponse que j'ai à vous faire. Et quelle est cette réponse, monsieur ? Cette réponse est que votre seconde demande est pour le moins aussi exagérée que la première. Je ne me bats pas avec un mulâtre. Georges devint affreusement pâle. Et cependant, un sourire d'une indéfinissable expression erra sur ses lèvres. C'est votre dernier mot, dit-il. Oui, monsieur. À merveille, monsieur, reprit Georges. Maintenant, je sais ce qui me reste à faire. Il se retira, suivi du gouverneur. Je vous l'avais bien prédit, monsieur, dit Lord Williams lorsqu'ils furent à la porte. Et vous ne m'aviez rien prédit que je ne susse d'avance, milord, répondit Georges. Je suis revenu ici pour accomplir une destinée. Il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai un préjugé à combattre. Il faut qu'il m'écrase ou que je le tue. En attendant, milord, recevez tous mes remerciements.
Ce roman est intéressant parce qu'il y a effectivement le rapport à la négritude, si j'ose dire.
Et Claude Chope.
Aussi très intéressant pour ceux qui aiment Dumas parce que Georges est la préfiguration du comte de Monte-Cristo, c'est-à-dire l'homme, le surhumain, l'Ubermensch. Ensuite, Georges va se mettre à la tête d'une révolte de nègres marrons, comme on les appelait, c'est-à-dire les nègres qui refusent l'esclavage et qui vont se cacher dans les montagnes de l'île Maurice, voilà.
Alors, qui est Alexandre Dumas ?
C'est véritablement à la fois un personnage atypique et typique. Je dirais atypique parce que, compter les écrivains d'origine antillaise, né de l'esclavage, enfin, puisqu'il était un quarteron, c'est-à-dire un quart de sang noir, sa grand-mère, sa sept étant esclave. Donc, l'atypisme, c'est ça. Comment ce personnage réussit-il à percer dans cette France qui, malgré la Révolution, malgré de très beaux discours pendant la Révolution, est restée extrêmement raciste, voire les lois de Napoléon.
Alors, vous ne nous avez pas parlé de son père ?
Oui, son père qui est cet admirable militaire, c'est un général de la République, qui lui a souffert de ne pas être reconnu. C'est un bâtard.
Avec le chevalier de Saint-Georges, le général Dumas va se retrouver dans un...
Oui, dans le régiment des Américains, en fait. C'est d'ailleurs Saint-Georges qui décide de venir en aide à la République en créant un régiment qui serait constitué d'Américains, c'est-à-dire de Noirs ou de Métis, enfin des militaires ayant du sang noir, si on peut dire ça. Et c'est comme ça que le général Dumas passe très vite au grade de général.
Qu'est-ce qu'on connaît des qualités d'escrimeur du général Dumas ?
C'est un sabreur plutôt qu'un escrimeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui impose de taille des stocks sa force dans le combat à cheval. Parce que c'est un cavalier. Ah,
belle botte de Nevers.
Très bonne parade, excellente.
Pierce, regarde. Il est très bien, ce jeune homme.
De l'allant, bonne position.
Les gardes du cardinal.
Vite, l'épée au fourreau, messieurs.
Trop tard. La peste, ce de Jussac et de ses gardes.
Voilà, mousquetaire, on se bat donc ici. Et les édits, qu'en faites-vous?
D'une certaine manière... Les Trois Mousquetaires, c'est l'histoire d'un monde qui est en train de disparaître.
Oui, c'est l'opposition entre les valeurs qui arrivent. D'Artagnan est dans la bourgeoisie déjà, il fait du trafic, d'épicerie. Et de l'autre côté, il y a les valeurs aristocratiques représentées par Athos. C'est une fabrication héroïque, en fait, le duel, en tant que système littéraire, si j'ose dire. Je crois que Dumas, le vrai véritable jugement de Dumas sur le duel, c'est véritablement que c'est une imbécilité.
Je n'ai que deux bras, une seule épée et un seul cœur.
En garde, messieurs, et pressez-vous. Nous sommes deux à attendre.
Quand vous voudrez, monsieur. Je suis prêt, monsieur.
Bon, et alors, dans la famille d'Alexandre Dumas, quelqu'un va passer de la fiction à la réalité ?
Oui, c'est le petit-fils de Dumas-fils, qui s'appelait bien sûr Alexandre, Ce monsieur Lippmann a maintenu haut les couleurs de la France au cours de trois Olympiades, 1908, 1920 et 1924, aussi bien en individuel que par équipe. Donc ça a été un admirable brodeur.
Il est cassé, mais enfin, regardez un petit fleuret avec lequel on faisait, c'est un modèle de luxe, mais enfin, petit fleuret comme ça, vouloir défendre la France et récupérer l'Alsace et la Lorraine avec cet outil-là, ça dépasse l'entendement. Et pourtant...
Donc le maître Jean-Louis décède en 1865, et 5 ans après, la France vit un événement historique, mais qui a des conséquences importantes sur l'escrime, c'est 1870...
Plus qu'importante. L'Alsace et la Lorraine ont disparu, sont passés sous contrôle allemand. Le traumatisme pour la France a été absolument énorme. Et le gouvernement décide, à une voix de majorité, l'enseignement de l'escrime obligatoire dans l'armée française. Un truc invraisemblable. On incorpore environ 900 jeunes choisis dans les régiments qui vont passer 3 ans à Joinville pour devenir maîtres d'armes. En quoi consiste cette formation du maître d'armes ? Étudier une situation, sportive ou non sportive. La décision de la solution offensive ou défensive la plus adaptée à la situation. Et troisièmement, la mise en application dans les secondes qui viennent de la solution décidée. Et il est un fait que les maîtres d'armes qui ont été formés pendant toutes ces années-là, et dont les derniers sont sortis jusqu'en 1970, la formation de ces maîtres d'armes a créé des champions olympiques, en veux-tu, en voilà, des résultats sportifs absolument invraisemblables.
Je crois en effet qu'au lendemain de ce qu'on appelait les déliquescences fin de siècle, fin du 19e siècle, les succès que les Français ont remporté dans les épreuves internationales de sport ont beaucoup contribué à leur rendre la fierté de leur pays. D'ailleurs, le sport est bientôt considéré comme patriotique. Les Anglais disaient « la bataille de Waterloo a été gagnée sur les terrains de jeu d'Eton ». Où mieux se préparer à reprendre l'Alsace et la Lorraine que dans les stades et sur les pistes ?
Jacques Chastenay, 1964.
Comment s'est fait le succès du sport ? Parce que ce succès était foudroyant.
On peut dire que jusqu'aux dernières années du 19e siècle, le sport était tout à fait ignoré des masses populaires. Mis à part peut-être dans le Nord, les compagnons du tir à l'arc, et dans le Midi, les adhérents des sociétés boulistes. Mais dans la plus grande partie de la classe moyenne, il était considéré avec un mélange d'effroi et de mépris. Les mères de famille interdisaient catégoriquement à leurs rejetons de s'échauffer. Peut-être était-ce parmi les mondains et dans la bourgeoisie aisée, que ce que nous appelons maintenant le sport, était le moins décrié. Mais il ne s'agissait pas tellement de se développer physiquement que de se préparer au duel, l'escrime, d'être élégant, l'équitation, le salé encanaillé avec des gigolettes, canotage.
En 1896 à Athènes, ont lieu les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne. En 1900, c'est à Paris que le premier titre olympique à l'épée est conquis par un Cubain formé en France. Ramon Fonst est le premier champion olympique des Caraïbes.
Dans un premier temps, les Noirs sont bien entendu exclus du monde des sports, qui est au départ un monde aristocratique très blanc. Pierre de Coubertin lui-même est un aristocrate très raciste, et donc son but n'est certainement pas de promouvoir la diversité et les minorités ethniques, absolument pas. Simplement, vers la moitié du XXe siècle, de plus en plus de gens pauvres ont accès au sport, et les Noirs vont investir cet espace démocratisé de plus en plus, alors pas tous les sports et pas à la même date et pas au même rythme, mais ils arrivent dans le monde du sport et dès lors que ces pratiques permettent une excellence qui leur est contestée dans la société, ils vont essayer de s'imposer dans un certain nombre de disciplines, en général celles qui coûtent le moins cher. Donc c'est pour cela que dans l'athlétisme par exemple, les Noirs vont beaucoup investir parce que pour courir finalement il ne faut pas grand chose. Et effectivement l'épée occupe une place un peu particulière parce qu'on aurait pu penser que c'est un sport aristocratique, un sport réservé, mais assez vite, les Antillais vont investir ce sport, parce que d'abord, ils investissent les sports de combat, parce qu'il y a une tradition bagarreuse, une tradition guerrière, donc le judo, Teddy Riner, n'est pas un phénomène étonnant, et effectivement, l'épée qui représente une tradition française par excellence, l'escrime va être investi pour des raisons à la fois historiques, on s'est toujours battu, et des raisons symboliques, on veut se battre avec les armes du blanc.
Machine, tout lever moi, ou lever mille et morts.
Oube, machine,
tout j'étais moi, ou j'étais la terre.
Au début des années 80, René Gros-Dubois et Robert Garra créent la Ligue d'escrime de Guadeloupe. René Méril, celle de Martinique. Des maîtres d'armes formés en métropole rentrent au pays.
Pour faire de l'escrime en Guadeloupe, il faut quand même en vouloir. Hein. Parce qu'encore maintenant, la salle Laura Flissel, elle est climatisée.
Rudy Néjus.
Mais de notre temps, ce n'était pas ça. Hein. Je me rappelle le sport de Pointe-à-Pitre, c'était avec des parpaings, c'était même pas une salle fermée. Il fait super chaud. Et c'est vrai que maintenant, quand je rentre, je me dis, on a fait de l'escrime, mais c'est dingue, comment c'est possible? Et c'est vrai qu'à un moment donné, je veux dire, nous, quand on partait en compétition, au tout début, en fait, c'était bien avant l'arrivée du maître Guillaume, au tout début, il y avait ce complexe par rapport à l'escrimeur de la métropole qui est beaucoup plus fort, qui a beaucoup plus de maîtrise, etc. Et en fait, ce qui a contribué à démystifier la chose, c'est justement donc l'arrivée du maître Guillaume et puis le fait qu'on était vraiment un groupe, quoi. Il y avait cette force...
Parlez-nous peut-être un petit peu de ce maître Guillaume plus précisément, qui il était...
Gaëtan Guillaume, en fait, il a été militaire, entraîneur de Pointe-Noire, mais aussi de l'équipe de la Guadeloupe pendant des années. Il nous a formés sur les déplacements aux championnats panaméricains, centra-américains.
Laura Flessel.
Et dans l'escrime, comme il venait de la métropole, c'était un référent noir. Donc du coup, c'était comme un mentor pour nous. Et effectivement, il avait sa vision du sport, du travail qu'on devait faire en fait à l'entraînement, mais il était aussi dans l'empathie, il était dans l'amour. C'est-à-dire qu'on limite, à l'entraînement, c'était Maître Guillaume, et dès qu'il sortait, il pouvait faire du foot avec nous, il nous aimait comme ses enfants, j'ai envie de dire.
Donc quand il est rentré en Guadeloupe, il avait vraiment un objectif très précis, qui à l'époque pouvait paraître un peu farfelu, mais c'était vraiment d'arriver à avoir des Guadeloupéens champions de France, mais en étant de là-bas. Quoi.
La Guadeloupe ne compte que 300 licenciés, mais ses escrimeurs raflent tout lors des épreuves interrégionales.
RFO,
une réussite 1987. Au niveau national, avec les titres par équipe remportés ces dernières années chez les cadets. La recette de ces succès est simple.
Tout ce qui concerne les sports de combat ou des feintes,
Gaëtan Guillaume,
les sports de détente et de la vitesse, ça va très bien avec les Antillais. Maintenant, ce qui est difficile, c'est l'effort de concentration que les Antillais n'aiment pas beaucoup et cette notion de discipline.
Par manque d'effectifs et d'encadrement également, l'escrime guadeloupéenne s'est orientée vers une seule arme, l'épée. Les résultats suivent, bien sûr, mais la progression de l'ensemble s'en trouve considérablement freinée. L'avenir de l'escrime en Guadeloupe passe par la réalisation de deux objectifs, se déplacer davantage en métropole et convaincre les jeunes de poursuivre l'entraînement et la compétition après le baccalauréat.
Ce qui est intéressant, c'est que l'arme dans laquelle excellent les Antillais, c'est le cas de Laura Flessel, mais il y en aura d'autres après, c'est l'épée.
Oui.
L'épée qui est sans doute l'arme qui est la plus proche de celle oui. utilisée dans les duels d'honneur.
Oui, l'épée est une arme sans convention. Le premier qui touche a raison.
Jacques Ries.
Au-dessus de 1/20 de seconde, ça neutralise la touche de l'autre et il n'y en a qu'un seul qui est touché. C'est clair et net.
Vous faites partie de ces maîtres d'armes qui ont été formés à l'armée ?
Oui. J'étais donc militaire. J'ai quitté l'armée, j'ai passé mon bac à 33 ans. Après mon bac, j'ai passé le professeur d'éducation physique. Et donc, une opportunité fait que, c'était en 90-91, on pensait monter, la fédération pensait monter sur les Antilles, au Creps Antilles-Guyane, un pôle espoir, comme il existait quelques-uns en France, une dizaine à peu près. Laura Flessel s'était déjà fait remarquer bien avant 1990. Donc la Fédération Française d'Escrime avait bien compris qu'il fallait faire quelque chose pour mettre à la disposition des jeunes athlètes de qualité une structure leur permettant de s'entraîner ensemble et avoir des résultats rapidement. Mais au départ, il faut un cadre. Et ce cadre, d'abord, c'était la demande des ligues et le CREPS. Le CREPS, M. Raval, qui donnait, c'était important, l'internat, l'ouverture sur les collèges et lycées, la structure d'entraînement. Il fallait que ces gosses qui venaient notamment de la Martinique et de la Guyane, éloignés du CREPS en Guadeloupe, il fallait bien une ouverture, un appui, une solidité au niveau de l'enseignement concernant les collèges et les lycées. Alors, au départ, j'ai vu les clubs qu'il y avait dans les trois départements.
Je connaissais des maîtres d'armes que j'avais déjà formés et qui étaient dans ces clubs. Je pense Joël Téplier, premier maître d'armes de Laura Flessel. Je pense à Jean-Marie Rubeau, qui a été formé à Dinard et qui était maître d'armes à Martinique et qui a fait un excellent travail de base. Il y avait le maître Guillaume Gaëtan et le maître Rémi Moderne à Basse-Terre. Donc effectivement, ces maîtres d'armes de club m'ont donné confiance. Ils m'ont encouragé parce que j'ai vu le travail qu'ils faisaient. Un travail de base, très méthodique, n'allant pas plus vite que la musique. Tant que tu n'as pas appris ce mouvement, il ne passait pas à un autre mouvement. Il respectait le développement de la coordination motrice. Nous, à Métropole, on a tendance à faire trop de général et à passer trop vite de A à B et de B à C. Et c'est là que les enseignants d'outre-mer développent les sensations du fer, les sensations de la piste, les sensations de l'autre, le respect de la distance, etc. Sans oublier le jeu.
Et qu'est-ce qui est spécifique dans la motivation des escrimeurs antillais guyanais?
Alors, c'est surtout cette motivation intrinsèque que l'on voit à chaque entraînement, que je voyais à chaque entraînement. Cette motivation qui m'obligeait de me dépasser en tant qu'entraîneur. Motivation intrinsèque, c'est l'intérêt et le plaisir pour le jeune dans l'action, sans attente de récompense externe.
C'est-à-dire qu'on avait une approche vraiment très différente, beaucoup plus basée sur le jeu. Et à partir du jeu qui était l'escrime, en fait, petit à petit, on mettait dessus la technique, on progressait, etc. Mais ça venait après, je pense.
Que moi, je me souviens, c'était une phrase que je disais tout le temps, c'est « et après ». Ok, j'ai compris, et après. Et après, et après, il disait ok, alors maintenant on va faire. Mais il fallait vraiment qu'on intègre, et quand on s'appropriait vraiment la chose, il y avait la phase 2, la phase 3, on était dans un univers hyper riche, mais il y avait cette rigueur.
Quand on demande, y compris hein, aux escrimeurs antillais, comment ils expliquent l'excellence des épéistes antillais, beaucoup nous répondent, bah, écoutez, c'est lié à l'esclavage, puisqu'on imagine bien que, vu les récits qu'on en connaît, ceux qui survivaient étaient des gens extrêmement solides, forts. Est-ce que cette explication vous convient ?
Alors, il y a un petit côté eugéniste à cette explication qui est un peu dérangeant. Ce qui est certain, c'est que les gens devaient se battre, qu'ils soient forts ou faibles. Et vous savez, le combat, c'est pas uniquement la force physique. Combien de femmes se battaient également? On redoutait les cuisinières qui écrasaient du verre pilé dans les soupes. Et les gens mourraient sans savoir de quoi. Donc les gens peuvent être très affaiblis physiquement par l'esclavage et très belliqueux en même temps. Donc il y a toutes sortes de marronnages, toutes sortes de résistances. En revanche, ce qui est certain, c'est pas que les gens étaient sélectionnés, c'est que les gens, en tout cas, se sont habitués à résister. Ils ont perfectionné des techniques de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui des traces de cela. Même si individuellement les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, ça fait partie des séquelles de l'esclavage.
Donc je suis arrivée sur le tarmac, il y avait plein de gens et je me suis dit bon, il va y avoir plein d'escrimeurs, les politiques seront là, ma famille sera là. En fait non, il y avait toute la Guadeloupe. Il y avait des gens dans tous les sens, de toutes les générations, les petits comme les grands. Et quand je suis sortie, il y avait une belle voiture traditionnelle rouge, couleur préférée, avec plein de gens, avec plein de bouquets, et c'était le tour de la Guadeloupe. C'est-à-dire que pendant 20 kilomètres, plus de 20 kilomètres, il y avait des gens partout, des banderoles partout. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que lors de la finale, lorsque j'ai touché, j'ai parlé en créole. J'ai dit, je l'ai vu en créole. Et ça c'est sorti. Et en fait, à chaque fois qu'on part, si on part trop longtemps, ils pensent qu'on oublie nos origines. Et comme je faisais un sport dit élitiste, alors là encore, c'était encore pire. Et lorsque j'ai parlé en créole, là, j'étais à nouveau l'enfant du pays.
Aux Antilles même, le lien qu'on pourrait faire entre le succès de l'escrime aujourd'hui et le passé de l'escrime antillaise n'est pas fait du tout.
Vous avez raison, et c'est l'opposé, par exemple, de la capoeira. Et c'est pour ça qu'on peut se demander si l'épée n'est pas, finalement, à la croisée de deux phénomènes contradictoires, c'est-à-dire le retour aux origines. Nous avons été esclaves, nous nous sommes battus et nous devons garder cette tradition. Et en même temps, peut-être une sorte de politique d'assimilation. Nous allons reprendre l'arme des Blancs, nous allons être meilleurs que les Blancs dans leur propre jeu, mais nous allons adhérer à leur tradition, vous voyez. Donc on peut se demander si l'épée n'est pas, entre ces deux politiques, une politique d'assimilation aux traditions françaises et en même temps une politique de résurgence des traditions guerrières africaines.
Il y a eu un moment donné, dans l'équipe épée masculine, il y avait les deux frères Jeannet, Ulrich Robéry et vous, je crois.
Oui, c'était au JO.
Vous étiez uniquement entiers. Et donc on se retrouve avec 1,5% des licenciés qui donnent 100% de l'équipe de France. On se dit quoi ?
On se dit que cette question est toujours vraiment beaucoup revenue, surtout les dernières années, mais on se dit qu'on a un fort potentiel.
Jean-Michel Lucenay.
Je pense que peut-être que le haut niveau est peut-être pris plus au sérieux aux Antilles par rapport aux rêves, à ce qu'on voit, la distance aussi qui nous sépare de la France. Ça doit jouer beaucoup. On sait que les parents ils payent les billets d'avion, que ça coûte cher. Il y a très peu d'enfants qui abandonnent. Toutes ces factures-là, je pense qu'il faut les étudier et voir vraiment en profondeur ce qui peut être à l'origine. Mais en tout cas, en termes de potentiel, c'est vrai qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Moi, j'ai une escrime très atypique. Je fais des choses incroyables sur la piste dans des temps différents des autres. On a un Fabrice Jeannet qui, à l'époque, avait un bras hyper long, qui était élastique, son frère aussi. Il y a une détente de malade. On était sur des choses que, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas eu d'études dessus. On reste encore dans l'incompréhension.
Du code noir à l'or olympique, une histoire de l'escrime aux Antilles, avec Laura Flessel, Rudy Nedjus, Enzo Lefort, Jacques Castanet, Harry Méfond, Louis-Georges Tain, Claude Chop, Jacques Ries et Jean-Michel Lucenay. Lecture des textes, Hervé-Claude Hillin. Merci à Jean-Pierre Philippon et à la Fédération Française d'Escrime, à Jean-Marie Poquet, René Méril et Stanjik Cadignan. Documentation INA, Aurélie Marsay, Marthe-Laurent Clotilde. Prise de son, Yves Lehors. Mixage, Philippe Mercher. Un documentaire de Franck Toraval, d'après une idée originale de Stéphanie Gillard, réalisé par Anne Fleury.
Voilà pour ce beau documentaire de la Fabrique de l'Histoire consacré à l'escrime aux Antilles dans notre série sur l'histoire du sport. Nous continuons demain de parler de sport, mais nous parlerons du football avec Victor Massé de l'Épinay et ses invités. Le rapport de football à la nation et comment le nationalisme ou le patriotisme peut-il passer par ce sport. Ça sera le thème de la Fabrique de l'Histoire demain. Si vous voulez réécouter toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, les télécharger dans l'année qui suit leur diffusion, discuter avec nous sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire et également discuter sur le réseau Twitter Fabrique FC.